Vous écoutez
RMC.
Jeudi 14 mai,
l'info sur RMC.
Il est 7h, merci d'être là avec nous. Céline Kallmann vous donne les infos. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Le 14 juillet prochain, la nation rendra hommage aux soignants, reconnaissance symbolique voulue par le gouvernement. Mais dans les hôpitaux, on ne veut ni légion d'honneur, ni médaille, mais des moyens. S'ils trouvent un vaccin contre le coronavirus, le laboratoire français Sanofi en fera d'abord profiter les États-Unis. Ils ont investi massivement dans la recherche, décision logique donc pour le patron du laboratoire. Un plan colossal pour aider les professionnels du tourisme à se relever. 1,5 milliard d'euros de crédit devraient être débloqués par la Caisse des dépôts. Le gouvernement dévoile son plan aujourd'hui. Bienvenue à tous sur RMC. 1500 euros net, c'est la prime que vont toucher les personnels hospitaliers de 40 départements. Prime promise par le gouvernement pour les remercier de leur investissement ces derniers mois dans la lutte contre le Covid-19. Et le 14 juillet prochain, un hommage leur sera également rendu. Une médaille de l'engagement sera décernée. Une annonce plus ou moins bien accueillie par les premiers concernés. Nicolas Repère.
En première ligne à l'hôpital de Mulhouse, le docteur Jacques Schmitt voit d'un bon œil cet hommage rendu aux soignants.
C'est toujours gratifiant d'avoir une reconnaissance institutionnelle, ce qui montre quand même une reconnaissance de nos décideurs.
Mais pour ce médecin urgentiste, il n'y a qu'en accordant davantage de moyens aux soignants qu'ils seront vraiment récompensés.
C'est pas une médaille que j'attends quand je vais faire mon travail. Ce qui est important pour moi, c'est que je puisse soigner mon patient correctement, donc avoir les moyens nécessaires pour le faire. Et la seule vraie récompense, c'est quand celui-ci puisse quitter l'hôpital et guérir.
Avec cet hommage, le gouvernement tente de nous amadouer, dénonce Ghislaine Sicre, présidente d'un syndicat d'infirmières libérales.
On ne va pas s'en tirer avec un écran de fumée de la sorte, c'est pas possible. En nous donnant juste une médaille en chocolat ou juste une reconnaissance le 14 juillet, c'est pas suffisant. Notre rémunération au niveau des libéraux n'a pas été modifiée depuis 10 ans. Ça suffit. On n'acceptera plus que ce travail soit non récompensé.
Les infirmières libérales regrettent aussi d'avoir été exclues de la prime exceptionnelle qui sera versée au personnel des hôpitaux et des EHPAD.
Près de 4,5 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde par le Covid-19. Le bilan s'approche des 300 000 morts. Le coronavirus, qui ne disparaîtra peut-être jamais, a prévenu hier soir Mike Ryan, spécialiste des urgences sanitaires à l'Organisation mondiale de la santé.
Ce virus peut juste devenir un autre virus endémique dans nos communautés et ce virus peut ne jamais disparaître. Le sida n'a par exemple pas disparu, mais nous l'avons mieux compris et nous avons trouvé des thérapies et des méthodes de prévention et les gens ne se sentent pas aussi effrayés qu'auparavant par le sida. Et nous offrons aux personnes atteintes du sida et vivant avec une vie longue et saine.
Alors pour l'heure, toujours pas de vaccin à l'horizon. Évidemment, les recherches se poursuivent partout dans le monde. Le laboratoire français Sanofi fait savoir que s'il en trouve un contre le Covid-19, eh bien les États-Unis seront les premiers servis. Logique selon le directeur général, puisque les Américains ont été les premiers à participer financièrement aux recherches. Des propos qui ne passent pas franchement auprès des syndicats, Rémi Inc.
Oui, Sanofi est certes français, mais le marché est mondial, c'est la réalité. Le directeur général du laboratoire pharmaceutique a des mots forts. Les États-Unis partagent le risque des recherches menées à travers un partenariat et le gouvernement américain a le droit aux plus grosses précommandes si Sanofi trouve un vaccin. En français plus clair, je vais vous le traduire, ça veut dire les États-Unis seront les premiers servis parce que c'est le pays qui a payé le plus cher et le plus tôt dans les recherches de Sanofi. Cette avancée des Américains serait de quelques jours ou de quelques semaines sur le reste du monde, mais tout de même un peu dur à avaler pour Thierry Baudin, responsable syndical CGT chez Sanofi.
C'est purement scandaleux d'essayer de faire pression sur les Européens pour qu'ils participent aussi financièrement au développement de ce vaccin. Sanofi, chaque année, perçoit entre 110 et 130 millions de crédits d'impôt recherche de la part de l'État français. Sanofi a versé près de 4 milliards de dividendes aux actionnaires il y a quelques jours. Très clairement, les moyens financiers, Sanofi les a pour développer un vaccin.
Voilà, cela dit, rien n'indique que Sanofi sera le premier laboratoire à trouver le vaccin. Plus de 100 projets de vaccins sont actuellement à l'étude dans le monde. Sanofi commence les essais sur l'homme cet automne pour une commercialisation espérée à l'été 2021. Notons que d'autres laboratoires ont déjà commencé les essais sur des êtres humains.
Merci Rémi. Les chiffres d'une nouvelle étude de l'Institut Pasteur paru hier dans la revue scientifique Science. Le nombre de Français contaminés par le coronavirus, 4,4% au niveau national, moins de 10% en Île-de-France. C'est dans le Grand Est, les deux régions les plus durement touchées. RMC 7h05, comment l'État peut-il relancer le tourisme figé depuis le début de la la crise du coronavirus. Les hôteliers, restaurateurs, loueurs d'appartements, les campings ne travaillent plus ou peu depuis plus de 2 mois. Le tourisme, c'est 2 millions de salariés en temps normal. Un plan de sauvetage est donc présenté ce matin lors d'un comité interministériel. Jérémy Trottin.
De nouveaux efforts devraient être demandés aux assureurs, mais aussi aux banques pour sauver hôtels, restaurants, zoos ou encore petits commerces balnéaires. Si tous ces professionnels savent que cela ne pourra pas compenser les pertes déjà colossales, l'enjeu est de donner des perspectives à ces entreprises. Près d'1,5 milliard d'euros de crédits devraient être débloqués en grande partie par la Caisse des dépôts, avec des remboursements sur plusieurs années. Le gouvernement ne devrait pas en revanche aller dans le sens d'une baisse de TVA réclamée par certains professionnels, car selon un conseiller, l'enjeu n'est pas fiscal, il est surtout de faire revenir les clients. Pour répondre à cette demande, le Premier ministre devrait d'ailleurs préciser aujourd'hui un certain nombre de règles sanitaires pour les bars et restaurants qui pourraient rouvrir début juin. Le gouvernement réfléchit également à la distribution massive de chèques vacances pour encourager les plus modestes à partir cet été.
Et autre question qui sera sans doute abordée ce matin, y aura-t-il des colonies de vacances cet été? Organisation qui semble très compliquée vu les conditions sanitaires à suivre. D'ailleurs, si elles ont lieu, le prix des colos devrait grimper selon Anne Carayon, elle est directrice de l'association La Jeunesse au plein air.
On sait par exemple qu'il va falloir étoffer les équipes d'animation pour permettre des activités en petits groupes, qu'il va falloir étoffer l'équipe technique également pour multiplier le nettoyage des locaux. Et juste en travaillant sur ces surcoûts, on se rend compte que les séjours vont augmenter entre 10 et 15%. Il n'est pas question de faire porter aux familles cette question de surcoûts. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'aider financièrement les séjours qui vont s'organiser cet été, pour que nous puissions proposer des séjours au même tarif qu'habituellement.
Et pour tenter de relancer le tourisme, l'Union européenne appelle ses membres à rouvrir les frontières. Notez que Marine Le Pen, patronne du Rassemblement national, sera votre invitée Jean-Jacques à 8h30 sur RMC et BFM TV. Des frontières invisibles en France, établies à 100 km à vol d'oiseau de votre domicile. Au-delà, vous devez présenter un justificatif sous peine d'être verbalisé. Et c'est justement un vrai casse-tête pour les forces de l'ordre et une inquiétude pour certains élus. Jean-Wilfried Forquès, Gladys Lafitte.
Avec le déconfinement progressif, Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots, est inquiet de voir arriver un afflux de touristes parisiens qui pourraient passer outre l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi.
Nous faisons respecter l'occupation sur la plage, mais nous ne pourrons pas intervenir partout. Nous n'avons pas une police municipale assez forte pour venir faire respecter toutes ces règles.
Policiers et gendarmes sont mobilisés pour contrôler les déplacements en gare et sur les routes, mais le brigadier Cédric Labarca, policier à Montauban, regrette le manque d'outils numériques pour jauger les 100 km.
On parle d'un rayon de 5 km à vol d'oiseau. Aujourd'hui, on n'a pas de dispositif numérique qui nous permet de contrôler facilement si effectivement la personne est bien dans le cercle des 5 km et si elle l'a dépassé.
Des motifs impérieux, professionnels ou familiaux sont autorisés pour dépasser les 100 km. Une attestation est à remplir, mais elle implique de faire confiance aux citoyens, explique Cédric Labarca.
C'est une attestation sur l'honneur, donc difficile de contrôler si ce qui est déclaré sur l'attestation est véritable ou pas.
En cas de non-respect de cette mesure, une amende de 135 euros est encourue.
Une pensée ce matin pour la deuxième vague d'élèves qui reprend le chemin de l'école. Et tous les matins sur RMC, nous mettons en avant des initiatives positives, concrètes, solidaires. Exemple à Brest, dans le Finistère. Depuis lundi, l'entreprise Hermétique, spécialisée dans la vente de poêles à granulés, a embauché une institutrice. Vous avez bien entendu, elle est mobilisée pour effectuer la classe des enfants de 9 salariés, des élèves de différents niveaux, du CE1 à la 3e. Les enfants apprennent pendant que les parents travaillent. Reportage de Pierre-Yves Leroux et Romain Poiseau.
En file indienne, distance de sécurité respectée, les 9 enfants des 9 salariés de l'entreprise rentrent dans les bureaux de leurs parents avec une enseignante embauchée par la société.
Bonjour. C'est une nouvelle expérience qu'on va partager pendant 2 mois.
Une école particulière qui fait du bien à Léa, élève en 6e.
Déjà, je vais rattraper mon travail parce que c'était n'importe quoi pendant le confinement. C'est mieux, on travaille mieux, on est dans une bonne condition. Et c'est plus organisé.
Son papa Guillaume, lui, est ravi de voir sa fille à son bureau.
Changement de poste au sein de la famille.
Mais surtout soulagé de reprendre le travail presque normalement.
On s'est rendu compte que ça allait vraiment nous aider, nous, dans notre déconfinement et surtout dans notre travail en général, quoi.
L'entreprise a investi 5000 euros dans l'achat de tablettes, d'ordinateurs et dans le salaire de l'enseignante. Investissement nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise pour son président, Pierre Gadonex.
On n'est pas dans l'altruisme pur non plus. L'objectif reste de remettre l'entreprise entreprise à 100% dans le plein emploi et en toute sérénité.
Et pour davantage de sérénité financière, il espère bénéficier d'une exonération des charges patronales pour l'enseignante qu'il a embauchée.
Voilà une belle initiative pratique en plus.
Merci Céline. On vous retrouve tout à l'heure. Tiens Sanofi, on va vous donner quelques infos à propos de Sanofi pour bien comprendre. D'abord, il faut savoir que Sanofi, c'est une entreprise internationale présente dans 100 pays, 73 sites industriels dans 32 pays. Quel est le pays du monde où Sanofi fait le plus de chiffre d'affaires? Allez-y, je vous pose la question.
Les États-Unis.
Vous avez compris pourquoi Sanofi a signé avec le gouvernement américain et pourquoi le PDG dit « Je n'excuse pas, hein, pas du tout, hein, je n'excuse pas, d'autant plus que Sanofi France vit en grande partie grâce au remboursement des médicaments par l'assurance maladie. » Il faut quand même le rappeler. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a quelque temps, j'avais reçu le PDG France de Sanofi. Il s'appelle Olivier Bogilot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était le 20 avril, un lundi matin, je lui avais parlé des dividendes versés aux actionnaires. Et je lui avais posé la question, est-ce que Sanofi va verser cette année exceptionnelle, des dividendes aux actionnaires? Il m'avait dit oui. J'avais dit à quelle hauteur? Il m'a dit plusieurs milliards. Oui, 4 milliards d'euros versés de dividendes aux actionnaires. Donc, je vais en parler. J'espère qu'Olivier Bogilot sera avec nous tout à l'heure à 8h10. Je vais en parler tout à l'heure, puis j'en parlerai à Marine Le Pen. Vous voulez réagir? Allez-y, 3216rmc.fr. Il est bon de savoir. Hein. Et j'ai vu aussi que Sanofi avait rétro-pédalé et annonce être en discussion pour faciliter l'accès à son éventuel vaccin en Europe. Bon voilà, donc Sanofi rétro-pédale en Europe, oui, nous verrons bien. Encore faut-il que Sanofi trouve un vaccin avant tout le monde. Il est 7h12, merci d'être avec nous. Allez, 7h12, masque obligatoire et gratuit, Quentin Vinet. Nous rappelons, est-ce que le masque, question posée par beaucoup, Marine Le Pen, mon invitée, est favorable à un masque, au port du masque obligatoire dans les villes, dans l'espace public? Qu'en pensez-vous? Vous y êtes favorable ou pas? Certaines grandes villes le souhaitent, Quentin Vinet.
Paris, Lyon, Nice notamment, ça ce sont les très grandes villes. Alors c'est pas la position du gouvernement, vous le savez, et en réalité on s'aperçoit que c'est assez compliqué à mettre en place. À Nice par exemple, le maire Christian Estrosi évoque des motifs sanitaires pour justifier sa position, mais il a dû revoir sa copie après un recours de la Ligue des droits de l'homme. À Paris, Anne Hidalgo, qui était avec vous hier matin sur RMC, Jean-Jacques, n'a pas le feu vert de l'État alors qu'elle veut le rendre obligatoire, y compris dans les parcs s'il venait à rouvrir. Et puis vous vous souvenez de la ville de Sceaux qui était la première à l'imposer à ses habitants, mais la justice avait suspendu cet arrêté.
Masque obligatoire et gratuit, disent aussi certains responsables politiques.
Oui, gratuit, vous vous souvenez de Marine Le Pen avec un masque sur le visage devant la statue de Jeanne d'Arc pour le 1er mai à Paris. La présidente du Rassemblement National dit ceci, qu'un déconfinement réussi, c'est un déconfinement avec des masques généralisés pour tout le monde et mise à disposition, autrement dit, des masques gratuits.
Remboursés par la sécurité sociale?
Alors ça justement, c'est ce qui se dit, ouais, à la gauche de la gauche. Masques obligatoires, accessibles et remboursés. Les masques ne seront pas à la portée des personnes les plus démunies. Il faut qu'ils soient accessibles, dit Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Le communiste Fabien Roussel veut d'ailleurs qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Selon lui, le masque doit être considéré comme un médicament.
Comme un médicament. Et ça me fait penser, le préservatif devrait être remboursé par la sécurité sociale ou pas? Je pose la question. Non, mais c'est un virus aussi. Le préservatif protège d'un virus. Que je sache, celui du sida. Est-ce qu'il doit être remboursé? Mais je pose la question. Je poserai la question à Marine Le Pen. Il est 7h14. Vous êtes sur RMC. Merci d'être là. Pascal Fontenelle, personne, député La République En Marche de la Sarthe, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement dévoile tout à l'heure son plan pour soutenir le tourisme, plan de sauvetage. Le tourisme en a besoin.
Non, le tourisme est en souffrance, on a besoin, il est totalement à l'arrêt. Et il attend beaucoup, les opérateurs et mais même les Français peuvent attendre beaucoup de ce comité interministériel du tourisme. Le Premier ministre m'avait commandé en mars l'année dernière une expertise sur le chèque vacances, les aides des CAF et comment mieux faire partir nos enfants en vacances. Et donc j'espère que ce volet tourisme social prendra de la valeur dans le CIT ou après, parce que c'est un volet extrêmement important qui mérite peut-être d'avoir son sujet propre.
Bien, vous avez rédigé un rapport intitulé « Le tourisme pour tous », commandé par le gouvernement, qui sera dévoilé tout à l'heure d'ailleurs, Pascal Fontenelle, personne. Que recommandez-vous dans ce rapport ?
Trois choses. La première, faire plus partir d'enfants en colo ou en classe de découverte afin de renforcer le tourisme social qui est maillé sur tous nos territoires. Comment ? Bah, écoutez, avec des fonds via les collectivités locales et une envie politique et un engagement de l'État. On a aujourd'hui des CAF en France qui sont 101 avec 101 politiques et je crois qu'il faut les harmoniser pour que nos politiques sociales soient plus efficaces et à la hauteur de l'enjeu de l'acculturation en vacances pour les enfants en France.
Donc, ça, effort financier de l'État vers les collectivités locales qui elles-mêmes pourront aider toutes celles et ceux qui vont organiser cet été des camps de vacances, c'est cela ?
Oui, moi je pense que c'est bien. On n'est pas obligé d'aller en classe verte ou en vacances ou en colonie à 800 km. Oui. Aujourd'hui, on peut très bien trouver quelque chose à 50 km d'une ville comme Le Mans avec un petit endroit pour que les enfants passent des séjours en collectif, fassent du lien social et se changent les idées et apprennent à vivre en collectivité.
Bien, ça, pour aider... Alors, j'ai une autre question, Pascal Fontenelle, personne. Pour aider les parents, celles et ceux qui veulent envoyer leurs enfants, l'idée est de généraliser les chèques vacances. Une diffusion massive et ciblée du chèque vacances, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, aujourd'hui, le chèque vacances est diffusé à 4,5 millions de personnes pour 33 millions de bénéficiaires potentiels. Donc je pense que c'est un très bel outil. D'ailleurs, les gens regrettent de ne pas y avoir droit, ce qui prouve qu'ils veulent être inclus dans le dispositif. Moi, j'avais préconisé que la prime Macron, l'année dernière, au moment des Gilets jaunes, soit peut-être fléchée chèque vacances pour qu'on fasse du tourisme avec cette prime. Et c'est surtout que la prime Macron est quelque chose de simple à mettre en place pour les entreprises. Et donc, ce fléchage serait vertueux pour aider notre tourisme aujourd'hui extrêmement impacté. La solidarité nationale touristique peut jouer à travers le chèque vacances.
Alors, vous demandez, si j'ai bien compris, Pascal Fontenelle-Personne, que les primes prévues par de très nombreuses entreprises privées ou publiques soient transformées en chèque vacances.
Oui, elle soit surtout fléchée tourisme, chèque vacances et tourisme de proximité.
Fléchée tourisme, c'est-à-dire que les primes soient consacrées au tourisme.
Au tourisme pour aider les opérateurs qui, eux, ne peuvent compter que sur les Français cette année pour fréquenter leur site.
Mais voilà, tout le monde ne va pas. Oui, mais toutes les entreprises ne vont pas verser des primes, Pascal Fontenelle-Personne.
Oui, on est d'accord, le système n'est pas idéal, la crise est majeure et tout le monde ne va peut-être pas en bénéficier. Mais décidons de commencer quand même cette année à mieux flécher le chèque vacances, à mieux aider le tourisme en France. Et puis peut-être aussi, j'ai un message à passer, aujourd'hui les agences de voyage qui savent traiter les séjours à l'étranger et les séjours en France sont des vraies agences de vacances qui peuvent accepter le chèque vacances. Et je crois qu'il va falloir modéliser tout ça un petit peu mieux.
Alors que des agences de voyage acceptent les chèques vacances, c'est ce que vous demandez aussi.
Alors je demande ça, et surtout peut-être qu'on les appelle les agences de vacances, parce que les agences de voyage, elles vendent d'abord des vacances, et aujourd'hui, elles vont avoir quoi comme offre ? Ben, l'offre Destination France.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vraiment très intéressant, Pascal Fontenelle-Personne. Moi j'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait payer son billet de train, par exemple, avec un chèque vacances ?
Ben, bien sûr, et on devrait même ressusciter le billet annuel de congé payé de la SNCF, qui existe toujours, mais qui est tombé en désuétude. C'est également une de mes propositions.
L'une de vos propositions. Oui. Et la restauration, la TVA 5,5 ?
Écoutez, je fais partie des parlementaires qui soutiennent ce biais-là, parce que j'entends bien qu'ils vont réouvrir, mais de toute façon, les conditions sanitaires que nous allons imposer, et qui sont, à mon avis, normales compte tenu de la pandémie, ne vont pas leur permettre de faire le chiffre actuel et de d'habitude, et ce serait un moyen de les aider à passer ce cap, mais ça pourrait être aussi limité dans le temps. Ça pourrait être juste pour la saison 2020, et clause de révision au PLF de 2021. Voilà, il y a plein de choses à faire.
Il y a plein de choses, oui.
La filière est en crash économique. Donc, on est capable de les aider. Il y a des moyens. Il y a une conscience importante au niveau du gouvernement et du président de la République pour traiter ce sujet-là. Je suis ravie qu'on m'ait commandé ce rapport qui a été remis quand même en septembre 2019, qui était en arbitrage.
C'est vrai.
Et je ne savais pas que j'écrivais les fondations de quelque chose d'utile pour permettre au tourisme de oui. survivre. Voilà.
Et je rappelle que le tourisme en France est 2 millions d'emplois, 7,2% du PIB, soit 168 milliards d'euros. Merci à vous, hein, Pascal Fontenelle-Personne.
Merci. Je vous en prie, bonne journée,
merci,
monsieur.
Merci, merci. Bonne journée. Nous avons beaucoup parlé des chèques vacances, j'en suis sûr. Dans les heures qui viennent, Pascal Fontenelle-Personne qui nous a donné des infos. Donc, hein, on pourrait presque payer. Oui, on va peut-être pouvoir payer ces billets de train en chèques vacances. Vous imaginez, les agences de voyage qui prendraient des chèques vacances. Ce serait formidable, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, et les primes transformées en chèques vacances, vous êtes favorable ou pas? 7h20, vous nous dites, Mathieu.
À suivre, Emma oui. le réclamait tout à l'heure. Ah eh bien, bon. Il arrive, Charlemagne.
Charlemagne,
arrive.
Oui, il est là.
Eh bien, oui, il est là. Il va nous c'est parler bien. De Jean-Michel Aulas.
Il a la barbe fleurie.
Hein. Eh oui, enfin, fleurie. Oui. Marie Dufin, un à peu peine. Moins de barbe, mais elle va nous parler du télétravail, puisque des entreprises proposent désormais le télétravail à vie du pain quotidien. Dans un instant sur RMC.
RMC. RMC.
Dupin quotidien.
Avec Marie Dupin. Oui, Marie. Voilà, Marie. Bonjour, Marie. Mais je vous cherche sur mes écrans. Vous
je
êtes dans
là.
Le studio.
C'est bon
vous êtes là, je vous ai trouvé. Mais oui, mais oui. Il fait beau, là, chez vous. Hein. Il fait très, très beau. Je vois le
ça
soleil.
Va.
Hein.
Oui, oui, ça va.
Et qui brille ouais, bah, ouais, par la fenêtre.
C'est une lumière bon. Artificielle,
ah,
surtout.
Ah, bon, d'accord. Ah, bon, bah, je suis déçu. Bon, bah, moi, je croyais. Marie, de très nombreux salariés vont rester en télétravail. Parfois, pendant longtemps. Le télétravail. On a découvert le télétravail. Enfin, on a découvert. On savait que certains ouais. télétravaillaient déjà, mais le télétravail qui s'est répandu dans toute la France à l'occasion de cette crise sanitaire, j'ai même vu que Google, Facebook allaient télétravailler jusqu'en 2021, Twitter a même décidé d'autoriser le télétravail à vie. Télétravail à vie. Mm-mm. Petite parenthèse, je m'adresse à nos auditeurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous resteriez à vie chez vous pour travailler? Dites-nous. Le gouvernement vient de publier un guide du télétravail pour les entreprises et les salariés, Marie.
Oui, et vu que je suis directement concernée, bah, j'ai regardé ce guide avec beaucoup d'intérêt, vous vous en
oui,
doutez. Alors, première question, Jean-Jacques. Mon oui. employeur peut-il m'imposer le télétravail? Eh bien, oui, le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l'accord du salarié. L'employeur peut aussi vous le refuser s'il estime que les conditions de reprise sont conformes aux consignes sanitaires, mais il doit alors motiver son refus, puisque jusqu'à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié, si c'est possible, que vous soyez dans un département rouge ou vert, d'ailleurs. Ça
est-ce
change rien.
Je dois respecter mes horaires de travail si je suis en télétravail.
Ben oui, hein, bien sûr, c'est l'employeur qui fixe vos horaires de travail et vous devez être opérationnel et disponible pendant les horaires fixés. Vous avez aussi toujours les mêmes temps de pause, de déjeuner. La distinction doit être claire hein, entre les moments où vous reposez et les moments où vous travaillez. Vous devez vraiment pouvoir déconnecter. Ce n'est pas forcément évident pour beaucoup de salariés puisque ce qui ressort des études, c'est que la durée moyenne de la journée de travail de ceux qui télétravaillent s'est allongée.
Est-ce que l'entreprise doit fournir un ordinateur?
Bah, vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Si vous n'en avez pas ou que vous ne voulez pas l'utiliser, l'employeur doit vous en fournir un et doit d'ailleurs fournir et installer tout l'équipement dont vous avez besoin. Fournir ouais. et installer.
Mais Marie,
en ce moment, c'est
Marie.
Pas évident.
Si je garde des enfants parce que bah ils ne peuvent pas aller à l'école, l'école n'est pas ouverte, je fais quoi? Je reste en télétravail avec mes enfants, c'est pas évident.
Vous faites comme moi, voilà, si l'école n'a pas ouvert ou que vos enfants sont pas prioritaires, bah le télétravail est à privilégier. La ministre du Travail a estimé récemment que la productivité ne peut pas être la même quand le salarié garde aussi les enfants. Elle demande aux entreprises d'être compréhensives et d'en tenir compte dans leur rapport avec leurs salariés. Ceci dit, il y a une étude du cabinet Valoir qui vient de sortir, qui montre que la productivité des salariés en télétravail pendant le confinement a baissé de 1%, 2% seulement quand les enfants sont à la maison. Autant dire que les enfants en question ont regardé beaucoup de dessins animés, Jean-Jacques.
Merci Marie, merci beaucoup. Bonne journée, à demain.
À demain.
À demain Marie. C'est l'actu des réseaux sociaux avec Charlemagne.
RMC.
Vous ne savez pas pourquoi nous l'appelons Charlemagne, Nicolas
non,
Poincaré. Vous ne savez pas parce
non.
qu'une auditrice, une, Qu'est-ce qu'il y a, Charles ?
Non, non, mais c'est... Non, mais
une auditrice, tout à l'heure, nous a dit « J'adore Charlemagne ». Alors donc, bah, nous parlons. Il est avec nous, ressuscité, c'est incroyable. Bon, allez, charlemagnien. Jean-Michel Aulas fait à nouveau parler de lui. Le président de l'Olympique Lyonnais a envoyé un long courrier aux députés et aux sénateurs pour contester l'arrêt de la saison de Ligue 1.
Oui, c'est le journal Le Parisien qui a révélé l'info hier soir. Dans cette lettre, Jean-Michel Aulas se montre très critique vis-à-vis des choix du gouvernement. Il s'en prend directement à la ministre des Sports, Roxane Maracineanu. Il dénonce des décisions précipitées alors que d'autres scénarios sont encore possibles selon lui. Bref, il ne lâche pas l'affaire. Il fait comprendre qu'il ira jusqu'au bout pour contester le classement entériné par la Ligue. Une attitude qui exaspère de plus en plus les supporters quand on lit les réactions hier soir sur Twitter. Le cas Aulas était comique au début. Là, ça commence à être de l'indécence, dit un internaute. À chaque fois, je me dis qu'il ne peut pas se ridiculiser encore plus et il prouve l'inverse à chaque fois, dit un autre. Il a raison, ironise un internaute. La priorité absolue en ce moment, c'est de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour comprendre pourquoi le 7e du championnat n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Conclusion d'un internaute qui écrit « Je suis supporter de l'OL, mais là je n'en peux plus, il faut qu'il arrête. C'est avant qu'il fallait se réveiller pour ne pas être 7e, on a fait une saison horrible, il faut l'accepter. »
Autre info qui a fait beaucoup réagir, les personnels soignants qui recevront une médaille de l'engagement face aux épidémies, il y aura aussi... Il faut le dire, des légions d'honneur et l'Ordre national du mérite.
Et bien c'est Sibeth Ndiaye qui l'a annoncé hier à l'issue du Conseil des ministres.
Une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Elle pourra être décernée à titre individuel ou collectif et fera l'objet prochainement d'un décret qui la réactualisera.
Et cette annonce a fait bondir les internautes hier. On s'en fout des breloques. Ce qu'on veut, c'est des moyens, de meilleurs salaires, le paiement des heures sup, écrit un interne sur Twitter. C'est pas en maternelle qu'on est payé en bon point, se demande un internaute. Pourquoi ne pas donner une médaille à tous ceux qui ont continué à faire tourner le pays, ajoute un autre. C'est bien gentil, mais est-ce que je peux donner la médaille à mon proprio pour payer mon loyer, se demande une internaute. Enfin, certains ironisent, comme cet internaute qui propose qu'en plus de la médaille, on ajoute un pins parlant collector avec la voix de Sibeth Ndiaye. Le package serait complet.
Nicolas Poincaré est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour, vous allez nous parler de ces médailles, ces décorations, parce que le gouvernement, le président de la République, ressuscite pour l'occasion une décoration créée en 1885 ou 4.
Alors, en 85, après l'épidémie de choléra de Marseille et de Arles qui avait lieu en 84, on l'avait appelée la médaille d'honneur de la lutte contre les épidémies. Je vais vous raconter cette histoire-là
et puis
celle de toutes les autres décorations. On en a plusieurs dizaines. C'est une passion française.
Passion française. Il est 7h29. J'ai le train de prendre Paulette, non ? Allez, je vais la prendre. Tant pis, je vais déborder d'une minute. Paulette, vous êtes dans la Vienne.
Oui, je suis dans la Vienne.
Bonjour, Paulette. Merci.
Ah, bonjour.
Vraiment, merci d'être avec nous. Vous regardez la télé ou la radio le matin ?
Non, la radio depuis des années.
C'est vrai.
Je l'écoute à la radio, oui.
Bon, vous aimez ?
Je désespérais de jamais vous parler.
Alors, là, vous désespériez ? Ben, vous voyez, Paulette. Vous aimez ? Vous aimez ?
Oui. Ah, bon. J'adore votre voix le matin. C'est ce qui me, tous les matins, me met en pleine forme pour la journée.
Bon, ça s'est bien passé dans votre commune de Thuir.
Thuré. Oui, voilà, petite commune de 3000 habitants. Oui, ça s'est bien passé. Les gens sont très, très, très solidaires et on a mis en place dès le départ le service des courses. Ensuite, on est en train de fabriquer des masques là pour la commune. Donc, tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Les gens respectent. Voilà.
Bon, eh bien, merci Paulette. Je vous fais un gros baiser. Je vous embrasse.
Beaucoup.
Gros bisous. Merci. Au revoir. Il est 7h30. Merci.
À suivre dans Bourdin Direct. L'immunité de groupe sera suffisante pour éviter une deuxième vague. C'est ce que dit l'Institut Pasteur, qui se veut rassurant. Le professeur Xavier Lescure est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Que dit-il de cette deuxième vague ?
Je vais lui parler des vaccins aussi.
Aussi, après 7h30 sur RMC.
31 juste, Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Les Américains prioritaires si Sanofi trouve un vaccin anti-Covid. Phrase lâchée par le directeur général du laboratoire français. Son argument, les États-Unis ont été les premiers à participer au financement de la recherche. C'est un secteur qui représente plus de 7% du PIB en France, le tourisme, durement frappé par le coronavirus. Édouard Philippe doit annoncer des mesures de relance dans la matinée. Et puis les rassemblements privés de plus de 10 personnes finalement autorisés. L'avis du Conseil constitutionnel oblige le gouvernement à modifier ses premières annonces. RMC 7h31. C'est une illustration concrète de la course aux recherches lancée sur le coronavirus dans le monde. Le laboratoire français Sanofi fait savoir que s'il trouve un vaccin, il en fera d'abord profiter les Américains. Petite phrase lâchée par le directeur général Paul Hudson à l'agence Bloomberg. Quels sont ses arguments ? Cédric Fesch, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis.
Ce sont les États-Unis qui ont payé le plus cher et le plus tôt, alors ce sont eux qui auront le vaccin en premier. C'est tout simple, c'est l'explication donnée par le directeur général du laboratoire Sanofi, un labo pharmaceutique français mais sur un marché mondial. Et son directeur général, le britannique Paul Hudson, explique que les États-Unis ont été les premiers à participer avec eux au financement de la recherche pour un vaccin. C'était en février et l'accord prévoyait que les États-Unis seraient alors les premiers servis. Plusieurs bémols quand même. D'abord, le patron de Sanofi précise que ce ne sera qu'une avance de quelques jours ou quelques semaines sur le reste du monde. Et puis, rien ne dit que c'est Sanofi qui trouvera un vaccin en premier. Plus d'une centaine de projets de vaccins sont en cours de développement à travers le monde. Sanofi commence les essais sur l'homme cet automne. D'autres laboratoires ont déjà commencé les essais sur des êtres humains.
De son côté, l'OMS prévient, le virus pourrait bien ne jamais disparaître. L'Organisation mondiale de la santé prend pour exemple la rougeole, toujours présente dans le monde alors qu'un vaccin est disponible. En France, on est toujours très loin de l'immunité collective. Selon des données actualisées de l'Institut Pasteur, seuls 4,4% de la population a été contaminée par le coronavirus, moins de 10% dans les deux régions les plus touchées, l'Île-de-France et le Grand Est. Le gouvernement au chevet du tourisme, secteur frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Édouard Philippe doit annoncer des mesures, un plan de près d'1,5 milliard d'euros pour les hôteliers, restaurateurs, voyagistes. Sur la table aussi, les colonies de vacances. Quelle solution pour les maintenir ? Parents et enfants sont dans le flou pour l'instant. Jean-Baptiste Bourgeon, Garance Munoz.
Avec les règles sanitaires liées au virus, Lilouen craint que son camp scout prévu cet été soit annulé ou qu'il n'ait plus beaucoup d'intérêt.
J'ai peur que ce soit très différent et qu'on puisse pas faire les mêmes activités. Par exemple, dormir en tente, je sais pas trop comment ça se passerait. Normalement, on dort par équipage. J'ai peur que ce soit pas pareil.
Garantir les distances, adapter les activités et la vie en communauté, les organisateurs planchent sur des solutions pour adapter les contraintes du virus à la réalité des camps scouts. Sad Zian est délégué général des éclaireurs de France.
À l'instant présent, ce n'est pas possible d'organiser un camp dans ces conditions-là. On travaille aujourd'hui sur des réponses qui peuvent être plus adaptées au Covid-19 que ce qu'on faisait par avant. Par exemple, pour le couchage, tout simplement pour ceux qui ont l'habitude d'avoir la tente de patrouille qui était pour 6 à 8 enfants, on s'oriente plutôt vers des tentes individuelles.
Malgré ces solutions, ce responsable scout prévient si d'ici début juin, le gouvernement n'a pas assoupli les règles sanitaires, les camps de cet été seront annulés.
Alors depuis le début de l'épidémie, quasiment tous les secteurs d'activité souffrent de la crise. Le tourisme, on en a parlé, le BTP aussi. Les patrons de PME espèrent entendre à nouveau le téléphone sonner, comme à Wildersbach au nord de Colmar. Reportage de Benoît Ballet et Marie Monnier.
La mâchoire de la pelleteuse rouge saisit les pierres une à une. C'est Frédéric qui est à la manœuvre à l'intérieur de la cabine.
Je suis en train de faire un enrochement. On empile les roches pour soutenir la terre. Au lieu d'avoir un talus, on fait un mur en roche.
Un chantier signé avant la pandémie. Gérald Metz est le patron de cette PME du BTP qui compte un salarié et un apprenti depuis le passage du virus. Il ne reçoit plus de demande de devis.
Moi, à l'heure actuelle, on est au mois de mai, je devrais avoir 3 à 4 coups de téléphone par jour pour me donner le reste de la suite. Mais je ne peux pas forcer les gens.
Gérald Metz anticipe des difficultés.
Si à la fin, on n'a pas de travail, il faudra retravailler tout seul et licencier mon ouvrier. Ce sera la première chose.
Mais l'entrepreneur, père de 3 enfants, n'a pas perdu tout espoir.
On espère que les gens auront envie, si on ne va pas en vacances, se faire plaisir chez eux. Là, pour ça, on est là, on creuse des piscines, on peut leur faire une belle terrasse. Voilà.
Ce patron de 44 ans attend également l'installation des nouveaux conseils municipaux et avec eux la reprise des commandes publiques.
Le gouvernement va renforcer le contrôle sur les demandes de chômage partiel. Objectif, détecter les fraudes ou les erreurs, compte tenu de l'importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics aux entreprises. La deuxième étape du déconfinement est envisagée pour le 2 juin, après le week-end de la Pentecôte, a confirmé la porte-parole du gouvernement hier. Pour le moment, donc, première étape, avec encore des mesures de restriction. Mais selon le Parisien, les rassemblements de plus de 10 personnes ne seraient finalement pas interdits dans les lieux privés. privé, Rémi Ing.
Oui, le Premier ministre avait pourtant annoncé devant les députés le 28 avril dernier que les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans les lieux privés seront limités à 10 personnes, pas plus. Sauf que dans sa décision publiée mardi, le Conseil constitutionnel a fait des précisions. Pas de réunion de plus de 10 personnes, mais seulement sur la voie publique ou dans les lieux publics. Résultat, dans la loi qui précise les conditions du déconfinement, eh bien aucune mention de cette interdiction dans un lieu privé. Il est donc possible de se retrouver avec un groupe de plus de 10 personnes dans un appartement ou une maison. Cela dit, ce n'est pas vraiment le moment de faire une grande fête chez vous dès ce soir. Les risques de propagation du virus sont évidents. Le ministère de l'Intérieur en appelle d'ailleurs au civisme et à la responsabilité des Français. Alors encore un peu de patience.
Rémi Ing, merci. Autre mesure de déconfinement, les plages rouvertes dans plusieurs départements, à La Baule, à Pornichet. Bonheur retrouvé, savouré dans une eau froide. Anaïs Denet, Margot Bédé.
Fouler le sable, se diriger timidement vers les vagues et enfin...
T'as mis les pieds dans l'eau ? Elle est comment ?
Elle est froide.
13 degrés qui n'arrêtent pas Isabelle et Pascal, les deux copines, tout de même en combinaison, se jettent à la mer.
Ça faisait 2 mois qu'on attendait ça. Et c'est vraiment, c'est indescriptible, vraiment pouvoir remarcher dans l'eau. J'étais hilar pendant les 30 premières secondes, comme une gamine de 5 ans qui arrive sur la plage. Quoi.
L'attente et enfin le bonheur. Ça fait partie de notre vie depuis plusieurs années, ça nous manquait.
Baignades et balades sont autorisées, mais pas de pique-nique ni de bronzette. La police y veillera, assure le maire de Pornichet, Jean-Claude Pelter.
Bah, les policiers, ils vont faire des rondes régulières. Donc il suffit de passer soit en vélo, soit en voiture pour voir si le comportement sur la plage... Regardez, là j'ai un exemple en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit bien que les distances sont respectées, le policier il dit rien. Il va voir un attroupement, là il sortira le mégaphone, il rappellera les règles.
La ville de Pornichet s'appuiera également sur des webcams pour surveiller les plages en temps réel.
Et les courses, Mathieu, c'est à Paris-Longchamp.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 2, l'Arnaud. Outsider numéro 6, Léonio, le 2 et le 6.
Bien, il est 7h38. Vous savez combien je fais confiance aux médecins, vous savez combien j'aime les entendre, les écouter, et parce que d'abord ils savent bien mieux que nous on ne sait rien, eux savent. Et moi, j'aime bien écouter ceux qui savent. J'aime bien écouter leurs avis. Et puis, j'aime bien les écouter quand ils disent on ne sait pas encore tout. Et on ne sait pas tout sur le virus, sur le Covid-19 ou la Covid-19. Pareil qu'il faut dire la Covid-19. Professeur Xavier Lescure, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Ça fait bien longtemps que je souhaitais vous recevoir, mais je sais que vous êtes absolument débordé. D'abord, regardons ce chiffre donné par l'Institut Pasteur avec vous, Quentin Vinet. Vous allez me dire ce que vous en pensez après et quelles conséquences qu'on peut tirer comme conséquence de ce chiffre, l'Institut Pasteur qui vient de fournir une estimation du nombre de Français atteints par le virus au 11 mai, seulement 4,4% de la population.
C'est ça.
Chiffre national, ça représente à peu près 3 millions, un peu moins de 3 millions de Français.
Et parmi ces malades, même pas 4% d'entre eux ont dû aller à l'hôpital. Une minorité, 0,6%, ont succombé à la maladie, chiffre qui est beaucoup plus élevé chez les plus de 80 ans. Ce qui est intéressant, c'est notamment de regarder la situation dans les régions les plus touchées, les deux régions, Île-de-France et Grand Est. Dans ces régions, l'estimation est de moins de 10% de malades. 9,9%, c'est moins que ce qui était prévu par l'Institut Pasteur. Pour vous donner une idée, selon l'Institut, il faudrait que 65% de la population soit immunisée pour atteindre la fameuse immunité collective. On en est loin. Il va donc certainement falloir apprendre à vivre avec ce virus. C'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé, parce qu'il est possible que le coronavirus ne disparaisse jamais.
Professeur Lescure, vous l'ajoutez quelque chose qui vient d'être dit ?
Il a tout dit. On comptait sur une immunité de troupeau ou une immunité collective. On pensait que ça irait un peu plus vite que ça, pour rien vous cacher. On est largement en dessous du seuil qui permet de se protéger collectivement. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Plusieurs mois, probablement plusieurs années, il va rentrer dans notre quotidien, il va rentrer dans le pool des virus respiratoires. Il va falloir s'en protéger. Ça va probablement changer les comportements de tout un chacun, sans paranoïa. Et puis après, c'est la solution finale, c'est le vaccin, entre guillemets.
Je vais vous parler des vaccins. Professeur Lescure, ça veut dire, je voudrais m'attarder sur ce que vous dites, parce que c'est quand même très important. Nous sommes en période de déconfinement. Beaucoup ont l'impression que le déconfinement, ça veut dire dans quelques jours, un retour en arrière, ce qu'on avait connu avant. Non, nous ne vivrons pas, maintenant que ce virus s'est installé, Il s'est installé chez nous, et pas que chez nous d'ailleurs, partout dans le monde, nous ne vivrons plus comme avant.
Je crois qu'on vivra plus comme avant, sur le plan médical, sur le plan sanitaire, sur le plan des comportements. Et puis, je pense que cette pandémie a des conséquences économiques, sociétales, politiques, qui vont changer la face du monde dans différentes dimensions. Après, j'ai pas amené ni ma blouse ni ma boule de cristal.
Oui.
Je sais pas si le climat va pas jouer, si ça va pas être un virus un peu saisonnier. Ce qui est sûr, c'est que dans les pays chauds, le virus sévit aussi. Donc c'est pas très réconfortant pour la suite.
C'est pas très réconfortant. Ça veut dire que nous allons devoir vivre en prenant des précautions.
Je pense. Après,
c'est difficile à dire.
Et comme vous, comme vous disiez, on ne sait pas tout et il faut savoir admettre de ne pas savoir quand on ne sait pas.
Il faut savoir admettre le doute. Exactement. Et ne pas être impatient.
C'est ça. Ah, c'est le doute et une certaine angoisse positive doivent faire avancer et la source de l'énergie pour aller de l'avant. Après, on verra. On s'adapte depuis 3-4 mois. Il va falloir probablement, effectivement, le message important. C'est qu'il va falloir qu'on continue à s'adapter probablement pendant un moment.
Pendant un bon moment.
Mais bien, oui. Peut-être qu'il y a des choses bonnes à prendre là-dedans. Hein.
C'est-à-dire
tout n'est pas mauvais.
Tout n'est pas mauvais.
Bah peut-être cette espèce de globalisation, de fuite en avant, de tout très vite, d'immédiateté, de sentiment de surpuissance. Peut-être qu'on va prendre un petit coup, mais peut-être ça nous rendra un peu plus philosophe. C'est pas plus mal.
Ben, professeur Lescure, vous restez avec nous. Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat. Vous avez compris pourquoi je souhaitais depuis longtemps que le professeur Lescure soit avec moi, avec nous. Il est 7h43. Vous êtes sur RMC, Mathieu.
À tout de suite.
À tout de suite, un peu de pub.
RMC,
Bourg en direct.
Et vous êtes nombreux à nous dire, comme Jean-Paul, qu'effectivement, la vie doit reprendre. On ne peut pas vivre dans une dictature sanitaire, écrit Jean-Paul. La peur va plus nous tuer que ce virus. Ce monde va devenir fou. Stéphane en a marre, trois fois marre. Des recommandations ici ou là. Je ne peux pas pêcher seul près d'un étang ou d'un lac. Mais en rivière, c'est possible. Et en même temps, on rouvre certaines plages. Les pêcheurs n'y comprennent rien, nous dit Stéphane. Sébastien, lui, en a marre de ces injonctions du gouvernement. Ras-le-bol, même, nous dit Sébastien. Un autre Sébastien, riz jaune, pas confiné. Ma femme a repris le travail aussi cette semaine. Comment faire pour l'école de nos enfants? Aurélien, lui, voudrait bien que ses parents puissent voir la petite fille qu'il vient d'avoir. Christine aimerait bien profiter du soleil dans le Jura. Dan, refaire un barbecue ce week-end. Christophe, fêter ses 41 ans. Et Philippe, revoir ses parents qu'il n'a pas vus depuis deux mois.
RMC, 6h-9h.
Bourg en direct.
Il est 7h47, professeur Xavier Lescure. Les vaccins, la course aux vaccins s'est accélérée, c'est fou. On n'a jamais vu ça, vous n'avez jamais vu ça, vous êtes infectiologue, vous n'avez jamais vu autant de d'essais partout, de projets partout dans le monde, projets de vaccins.
Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu 20 000 publications en 3 mois et demi sur la même maladie. On n'a jamais vu près de 2 000 essais cliniques sur la même maladie en 3 mois.
Ah, c'est fou. Alors, les traitements, puisque ça... Parlons d'abord, avant de parler des vaccins, des traitements. Aujourd'hui, je le répète, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un traitement qui permet d'atténuer ou de ne pas être infecté par ce coronavirus? Est-ce qu'il existe ce traitement?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un traitement. Puisque il y a, dans la maladie, il y a trois entités, il y a trois phases, il y a trois dimensions différentes. Il y a l'infection du virus et ce qui va déclencher au niveau de l'inflammation, de la réaction du système immunitaire. Et puis, des complications, il y a beaucoup de complications vasculaires, les vaisseaux sont atteints. Et donc, on a beaucoup ce qu'on appelle de maladies thromboemboliques, d'embolies pulmonaires, etc. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas de traitement spécifique contre le virus.
Il n'y en a pas aujourd'hui.
Il n'y en a pas. On a des signaux de faible intensité sur certaines molécules qui doivent être confirmés. Mais je pense que malgré tout, on prend mieux en charge les patients qu'au début parce qu'on connaît mieux la maladie et que sur les deux autres versants, inflammatoire et thrombotique, on a amélioré la prise en charge.
Alors, ce qui concerne les vaccins, donc c'est l'OMS qui dit qu'il y a plus de 100 projets en lice dans le monde, 110 je crois, avec des essais cliniques, hein, d'une dizaine, un peu partout dans le monde. pensez qu'on va trouver rapidement un vaccin?
Rapidement, non.
Un vaccin fiable, hein, je parle pas de... Bon, parce que j'ai vu que les Chinois étaient déjà sur le point de commercialiser peut-être un vaccin, mais qui n'a apparemment pas beaucoup de fiabilité.
Bah, il faut 12 à 18 mois pour qu'un vaccin soit développé et atteigne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché.
Mais avant la crise, peut-être qu'on va plus vite maintenant, non ?
Oui, alors malgré tout, il y a quand même, c'est très compliqué. Faut prendre beaucoup de précautions.
Oui.
Quand on touche à l'immunité, c'est quand même assez complexe.
Oui.
Faut tester les effets secondaires, la tolérance, etc.
Oui.
Et puis, au-delà de l'efficacité, après, il y a des questions de santé publique sur l'image des vaccins, par exemple, en France.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous avez vu que Sanofi, Sanofi qui voulait réserver, parce que le gouvernement américain s'est engagé financièrement auprès de Sanofi dans la recherche d'un vaccin, veut réserver ses premiers vaccins, les premiers jours, les premières semaines, aux Américains. Alors Sanofi a un peu rétro-pédalé en disant, oh là là, mais non, en Europe aussi, on va travailler avec les gouvernements allemands et français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous surprend ou pas?
Les industries pharmaceutiques sont totalement mondialisées et c'est pas parce qu'on a un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française, Sanofi, qui est français, qui travaille avec des partenaires internationaux. L'argent est beaucoup aux États-Unis. Si la prise de risque a été américaine, il n'est pas anormal qu'il y ait un retour sur investissement.
Ça ne vous choque pas? Franchement.
C'est un peu provoque. Je pense qu'il y a un peu de provoque. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'épidémie américaine, aujourd'hui, est beaucoup plus sévère que l'épidémie française. Et qu'on ne sait pas ce qui se passera dans quelques mois, mais c'est vrai que la population américaine est beaucoup plus à risque de faire des formes sévères. Et aujourd'hui, ils ont une incidence qui est vraiment exponentielle. Donc, c'est un des pays les plus touchés au monde. Ce n'est pas étonnant qu'on privilégie cette population-là. Et puis, je pense qu'il y a un petit message aussi de com au gouvernement français et aux citoyens français, c'est que...
Et au gouvernement allemand aussi.
Je parle de la France. C'est qu'on est le pays le plus réservé vis-à-vis de la vaccination. 45 à 50% des Français sont plutôt anti-vaccination. Ça fait mal, surtout que Pasteur... les vaccins, c'est la France.
Mais c'est oui.
Et donc c'est quand même un paradoxe total. Et je pense que ce message ne s'adresse pas uniquement au gouvernement français.
Ouais, j'ai compris. Il s'adresse aussi aux Français.
Je crois aussi.
Autre conséquence de cette crise, c'est l'organisation de l'hôpital. Là, vous dites attention à la possible troisième vague. Hein. Il y a eu la vague sanitaire, la vague économique et une vague sociale à l'hôpital. Une vague.
Qui avait
dans
déjà
le fonctionnement.
Un peu démarré avant l'épidémie. Il y a eu une espèce d'interaction temporelle. C'est-à-dire qu'on était en train de... Nous, on avait la crise de l'hôpital depuis... Je crois que ça fait à peu près 10 à 15 ans que la gouvernance, que le mode de fonctionnement à l'hôpital a changé. Et je pense que ça faisait plusieurs mois, voire quelques années, qu'on commençait, nous, soignants, à ressentir... les limites de ce modèle, basé sur la tarification à l'activité, sur des contraintes financières, on ne parlait que de chiffres.
Les schémas directeurs,
etc. Alors, c'est bien, il faut que ce soit organisé. Sauf que on ne peut pas regarder que les chiffres d'activité et que les finances. Et cette crise nous a fait... Paradoxalement, il y a eu des moments très douloureux, mais il y a eu des côtés positifs. Il faut toujours essayer de les regarder, surtout quand on se retourne. Et les côtés positifs, c'est que... Moi, je suis médecin depuis début 2000, et la tarification à l'activité, c'est 2001 ou 2002. Donc j'ai vu à peu près comment ça fonctionnait avant, et j'ai vu les 15 ans d'évolution, 20 ans d'évolution. J'ai un peu l'impression d'être un vieux con, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de changements en 20 ans, que je fais partie presque de l'ancienne génération. Aujourd'hui, la crise Covid a permis que les administrations et les soignants regardent au même endroit, l'endroit du patient. On a regardé en même temps et on a regardé en même temps au même endroit et on a vu l'efficacité, la synergie. On a vu des choses incroyables et on a fait, je pense, des choses assez incroyables. On a innové, on a fait preuve d'une agilité dont je pense personne n'aurait pu penser avant cette crise qui était on avait un hôpital un peu empêché dans une crise.
Ça veut dire, professeur Lescure, que rien ne doit être comme avant dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent.
Allô. Oui, je crois. Et je pense que les directions l'ont compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, la crise, l'épidémie, peut-être que je me trompe et je suis un grand naïf, mais je pense que les directions qui étaient dans une... On le sentait, ils étaient dans une injonction paradoxale. Ils étaient probablement... Il y avait beaucoup de devoirs de réserve au moment du collectif interhospitalier. Et cette crise a permis à certains directeurs de sortir de ce devoir de réserve dans des cellules de crise. On s'est beaucoup rapprochés. Et on a senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, je crois que ni les soignants, ni les directions, ni les administrations sont prêts à revenir à l'état antérieur. Il faut que les politiques et que les citoyens le comprennent aussi pour défendre cet hôpital et ce système de soins qui a été efficace, mais qui a montré certaines failles dans cette révélation qui a été Covid. Par exemple, le niveau de santé publique en France.
Eh bien, merci, professeur Lescure. Le message est envoyé. Hein, nous verrons s'il est reçu. Il est 7h55. On va passer très vite à Nicolas Poincaré. Je suis un peu en retard parce qu'il y a beaucoup de pubs, mais c'était passionnant, hein, ce que disait le professeur Lescure. Le fond, le contenu qui est important, évidemment. Nicolas Poincaré, expliquez-nous. Ces médailles, alors, que vont recevoir un jingle, là, ou pas? On le met?
Non. Expliquez-nous.
Voilà. Alors, la médaille de l'engagement face aux épidémies. Vous avez vu ça? Vous allez recevoir une médaille, peut-être une légion d'honneur, sait-on jamais. Hein, le professeur Lescure, je ne sais pas, moi.
La médaille, ce serait une refonte du système sanitaire.
Allez-y. C'est une médaille, c'est une manie française.
En attendant cette refonte, on va ressusciter donc une décoration créée en 1885. Une médaille qui fleure bon le 19e siècle et la 3e République, l'époque des écoliers en blouse et des bons points. Les enfants rêvaient tous d'avoir 10 bons points pour obtenir une image et leurs parents, eux, les papas surtout, rêvaient d'obtenir une décoration. En l'occurrence, donc, c'était la médaille d'honneur des épidémies qui avait été créée le 31 mars 1885. Pour récompenser ceux qui avaient soigné les malades de l'épidémie de choléra de l'année précédente. Épidémie qui est arrivée à Marseille dans un bateau en provenance de Saïgon et qui avait fait 1777 morts, principalement dans les Bouches-du-Rhône. Cette médaille a donc récompensé ceux qui se sont exposés au danger ou ceux qui ont participé à la désinfection. Elle était attribuée par ce qu'on appelait le ministère de l'hygiène, mais aussi par le ministère de la guerre et le ministère des colonies.
Bronze, argent, vermeil. Voilà. À l'époque, les décorations, beaucoup d'importance. Hein.
Oui, la preuve avec le scandale des décorations, qui est arrivé exactement à la même époque, en 1887. L'histoire, c'est qu'une prostituée qui s'appelait Henriette Bossier était rentrée dans un commissariat pour raconter que dans sa maison close, des messieurs très chics trafiquaient les décorations. Donc, enquête avait été menée, on s'était aperçu que l'homme qui vendait les décorations était un député qui était aussi le gendre du président de la République, Jules Grévy. Il avait vendu des milliers de légions d'honneur à 100 000 francs pièce. Le scandale est énorme et le président de la République doit démissionner, ce qui n'est quand même pas arrivé très souvent dans l'histoire de la République. Oui. C'est dire qu'on ne plaisantait pas avec la médaille.
La médaille des épidémies avait disparu depuis les années 60, mais on en compte toujours plusieurs dizaines d'autres.
Hein. Ouais, les décorations, les distinctions, les médailles, les rubans, les récompenses, on les appelle aussi les breloques ou les hochets. Il y a la Légion d'honneur et le mérite qui sont des ordres nationaux, les médailles militaires dont la prestigieuse croix de guerre, le mérite agricole, l'ordre des arts et des lettres, les palmes académiques pour les profs. La plus récente qui vient d'être créée, c'est la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme après les attentats de 2015. La très populaire médaille du travail que 300 000 Français demandent tous les ans. Ou bien encore la médaille d'honneur de la famille française. On y a le droit si on a élevé au moins 4 enfants français lorsque l'aîné a 16 ans. Et il ne suffit pas de faire des enfants, il faut aussi leur inculquer par l'exemple une solide éducation morale. Et si c'est le cas, eh bien on a une médaille pour témoigner de la reconnaissance de la nation.
Oui, les décorations, c'est une passion bien française, Nicolas.
Oui, c'est Napoléon qui a créé la Légion d'honneur et qui disait que c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. François Mitterrand le remettait, lui, presque tous les soirs à 18h, une dizaine de décorations dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il a fait ça pendant 14 ans. Il disait, lui, que ce qui mène les hommes, ce n'est pas l'argent ni le sexe, mais c'est l'orgueil. Et l'orgueil, il savait le flatter utilement.
Merci, Nicolas. Il est 7h58.
À suivre dans Bourdin Direct. Tout de suite, vous allez découvrir que ce que Marie Dupin nous a dit, le télétravail à vie, ça peut être une réalité. Le MEDEF veut une réflexion avec les partenaires sociaux. On en parle juste après le journal de 8h sur RMC.
RMC.